CEPH, de réanimation pédiatrique aux hospices civils de Lyon. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des particularités du SDRA chez l'enfant et ou le nouveau-né. Alors, première question, quelles sont les particularités de la définition du SDRA chez l'enfant et ou le nouveau-né et quelles en sont les principales causes?
Bonjour. Merci beaucoup. Alors, il est important de comprendre qu'il y a finalement deux définitions dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë en pédiatrie. Le premier concerne l'enfant nouveau-né et prématuré, et donc on va s'attacher à la définition de Montreux publiée en 2017 dans le Lancet et qui donne les caractéristiques de cette population néonatale. La deuxième définition est la définition dite de PALIC, qui est une conférence de consensus international qui s'intéresse, elle, à la définition du SDRA chez l'enfant jusqu'à l'âge adulte et qui a été révisée en 2023. À la différence de chez l'adulte, la définition du PALIC est basée sur deux index, l'index d'oxygénation et l'index de saturation-oxygénation. L'index d'oxygénation correspond aux pressions moyennes dans les voies aériennes fois la FiO2 divisé par la PaO2, et l'index de saturation-oxygénation correspond à la pression moyenne dans les voies aériennes fois la FiO2 divisé par la SpO2. Ainsi, en ventilation invasive, on considérera un enfant avec un SDRA en cas d'index d'oxygénation supérieur ou égal à 4 ou en cas d'index d'oxygénation-saturation supérieur ou égal à 5. Dans cette nouvelle définition, la stratification de la sévérité du syndrome de détresse respiratoire pédiatrique sera évaluée à H+4 du diagnostic, avec un syndrome de détresse respiratoire dit modéré en cas d'index d'oxygénation inférieur à 16 ou d'index d'oxygénation-saturation inférieur à 12, et un syndrome de détresse respiratoire dit sévère en cas d'index d'oxygénation supérieur ou égal à 16 ou d'index d'oxygénation-saturation supérieur ou égal à 12. On a donc dans cette nouvelle définition plus que deux niveaux de sévérité, modéré et sévère, et ceci est expliqué par les résultats de l'étude PARDI qui avait validé la première définition et dans laquelle on ne retrouvait pas de différence de mortalité dans le cadre d'un SDRA léger ou modéré. Dans cette définition, les opacités alvéolaires peuvent être bilatérales ou unilatérales. Il existe également une définition en cas de ventilation non-invasive qui nécessite une PEP supérieure ou égale à 5 cm d'eau et qui est définie sur un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 300 ou un rapport SpO2 sur FiO2 inférieur ou égal à 250. La particularité de ces définitions en pédiatrie, c'est à la fois d'intégrer des paramètres qui ne nécessitent pas de gaz du sang artériel et d'intégrer aussi la pression moyenne dans les voies aériennes. Dans l'étude PARDI, on s'est intéressé à comparer le nombre d'enfants qui avaient un SDRA selon la définition de Berlin et seulement un tiers des enfants inclus dans l'étude avaient les critères avec la définition de Berlin. Et ceci s'explique par une moindre invasivité de la prise en charge des enfants en général et donc moins de réalisation de gaz du sang artériel pour avoir les critères de Berlin. La deuxième particularité est l'intégration dans cette définition de la pression moyenne dans les voies aériennes qui permet à la fois d'être le reflet d'un niveau de PEP suffisant et également de comparer les enfants qui sont sous différentes modalités ventilatoires, notamment ventilation conventionnelle et ventilation à haute fréquence. Concernant les étiologies du syndrome de détresse respiratoire aiguë pédiatrique, elles sont finalement assez proches de celles de l'adulte, avec pour la moitié les pneumopathies, le sepsis en deuxième position avec près de 20% des enfants, suivi par les inhalations, le trauma et la noyade.
Deuxième question, quelles sont les modalités ventilatoires conventionnelles utilisées chez l'enfant et ou le nouveau-né ?
Les modalités ventilatoires conventionnelles en pédiatrie sont finalement assez proches de celles de l'adulte. Chez le nouveau-né, on va plutôt favoriser la pression assistée contrôlée, alors que chez l'enfant plus grand, le volume assisté contrôlé et la référence. Comme chez l'adulte, le volume courant sera réglé entre 6 et 8 mmK, avec la possibilité de même descendre entre 4 et 6 mmK si c'est nécessaire, notamment en fonction de la pression plateau. Pour le calcul du volume courant, on recommande dans cette nouvelle définition de prendre le plus petit poids entre le poids réel et le poids idéal prédit par la taille. En effet, il a été montré que chez l'enfant en surpoids, les poumons sont plutôt le reflet du poids idéal basé sur la taille, alors que chez l'enfant en état de dénutrition, les poumons sont plutôt le reflet du poids réel. Concernant le réglage de la PEP, comme chez l'adulte, elle sera basée sur la gravité du patient et un papier récent a montré que lorsqu'on utilisait des PEP insuffisamment élevées, notamment en se basant sur le tableau PEP-FIO2 de la RDS Network, il y avait une surmortalité des patients. Donc il n'y a pas lieu chez l'enfant d'avoir des niveaux de PEP qui soient inférieurs à celles utilisées chez l'adulte. Enfin, concernant les autres paramètres à surveiller, en l'absence de littérature spécifiquement pédiatrique, les recommandations sont les mêmes que chez l'adulte, avec une recommandation pour maintenir une pression plateau inférieure à 28 cm d'eau et inférieure à 32 cm d'eau en cas de réduction de la compliance de la paroi thoracique et également de maintenir une driving pressure inférieure à 15 cm d'eau. Enfin, on doit tout mettre en œuvre pour réduire au maximum l'espacement instrumental chez l'enfant et particulièrement chez le nourrisson parce que cet espacement instrumental peut représenter jusqu'à 1, 2, voire 3 mmK et va donc induire une hypercapnie majeure chez les enfants.
Troisième question, quelles sont les thérapies adjuvantes couramment utilisées chez l'enfant et ou le nouveau-né ?
Alors, concernant les thérapies adjuvantes, en dehors de la période néonatale où le surfactant va être utilisé largement, notamment dans le cadre des maladies des membranes hyalines, il ne sera pas recommandé chez le patient plus grand. De même, le NO, très utilisé en réanimation néonatale, n'est pas recommandé de façon systématique chez l'enfant. Concernant le décubitus ventral, il n'y a pas de preuve pédiatrique et la conférence de consensus s'est donc abstenue de toute recommandation. Concernant les curares et les corticoïdes, les études sont essentiellement adultes et les recommandations sont les mêmes. L'utilisation de curares en durée courte sur les premiers jours pour atteindre une ventilation protectrice et l'utilisation de corticoïdes uniquement chez des patients sélectionnés. Il n'a pas été possible non plus d'émettre des recommandations concernant les manœuvres de recrutement. Et enfin, une des particularités en pédiatrie est l'utilisation assez large de l'oscillation à haute fréquence, très probablement inspirée de la réanimation néonatale, sans qu'il soit possible de se positionner en faveur ou contre son utilisation au cours de la RDS pédiatrie. Actuellement, une grande étude internationale, Prospect, vise à évaluer le décubitus ventral associé ou non à l'oscillation à haute fréquence dans le SDRA pédiatrie. Malheureusement, le recrutement est difficile. Enfin, concernant l'ECMO, elle sera recommandée en cas de SDRA sévère avec une impossibilité de maintenir un niveau d'oxygénation suffisant. Les recommandations se terminent en proposant un certain nombre d'axes de recherche et on voit la difficulté au cours du SDRA pédiatrique qui a une mortalité moindre encore que celle de l'adulte de mettre en évidence la supériorité d'une stratégie et notamment des thérapies adjuvantes. Alors les trois références bibliographiques que je recommanderais sont tout d'abord et bien évidemment les recommandations du PALIC qui ont été publiées en février 2023 dans Pédiatrie Critical Care Médecine avec notamment un numéro spécial regroupant les argumentaires des différents groupes de travail. Le deuxième papier est celui de l'étude de Pardy, publiée dans Lancet Respiratory Medicine en 2018 par Robinder Kemani et qui visait à valider la première définition du PALIC et qui a inclus près de 150 enfants avec un SDRA pédiatrique à travers le monde. Enfin, le dernier, c'est celui de la définition de Montreux sur la RDS néonatale, publiée dans le Lancet Respiratory Medicine en 2016 par Daniele De Luca, et qui reprend notamment les spécificités de cette population néonatale. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci docteur Florent Baudin de nous avoir parlé du syndrome des détresses respiratoires aiguës chez l'enfant et le nouveau-né, qui est un sujet d'intérêt.